Remue-ménage. Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bonsoir et bienvenue dans Ondes Femmes, Radio Zone 93.8. Et tout de suite, 17h-18h30, comme vous venez de l'entendre, c'est Remue-ménage. À 18h30, ce sont les informels de Radio Pleine Lune, 19h, l'agenda culturel de Marjolaine. Alors aujourd'hui dans Remue-ménage, qu'est-ce que je vous propose? Eh bien, comme nous l'avions commencé au mois de décembre par une première émission, aujourd'hui nous continuerons une deuxième émission sur le thème « La religion par les femmes ». La religion, ou plutôt la spiritualité, une recherche que mènent autant les femmes que les hommes et qui a été évidemment complètement ignorée pendant des années et des années de recherche. Et deux femmes se sont penchées sur cette question, ce sont Nancy Auerfolk et Rita McGrath, deux Américaines, qui ont publié à l'automne passé un assez gros livre qui a pour titre « La religion par les femmes », publié aux éditions Labor et Fides, et qui nous donne toutes sortes d'approches intéressantes, qui nous offre toutes sortes d'approches intéressantes sur le thème « La religion par les femmes ». Je vous en redirai plus tout à l'heure. Nous avions lu au mois de décembre dernier un portrait d'une femme africaine impliquée dans la religion de son continent. Aujourd'hui, le portrait d'une femme indienne, une gourou à Madras. Mais tout de suite, en première partie, et bien simplement de nouvelles tirées des journaux que vous lisez peut-être tous les jours, mais sur lesquels nous avons l'intention de mettre un regard un tout petit peu plus particulier, puisqu'il s'agit de femmes. Tout de suite, donc, c'est un peu la planète femme dans vos journaux quotidiens. Gertrude Duby Blom, la jungle mexicaine, a perdu sa vieille dame suisse. C'était au mois de décembre 1993 dernier. Née en 1901, photographe, journaliste, cette fille de pasteur bernois fut en révolte avec son siècle, contre le fascisme d'abord, contre le massacre des forêts tropicales ensuite. Installée dans sa villa-musée à San Cristobal de las Casas, elle est décédée à 92 ans. Et c'est un peu le portrait d'une rebelle que s'est proposé de faire Thierry Sartoretti en faisant la relecture d'un article qui avait été publié à l'origine dans le Tages-Anzeiger. Alors, San Cristobal de las Casas, c'est un nom que vous avez entendu récemment, puisque c'est là qu'a commencé la révolte de Chiapas, la révolte de ces apatistes, ces Indiens qui aujourd'hui refusent d'admettre la fatalité de la pauvreté des Indiens et du mépris que l'on fait encore tomber sur eux dans le Mexique moderne d'aujourd'hui. Et Gertrude Duby Blom avait, elle aussi, beaucoup côtoyé, bien évidemment, les Indiens de Chiapas. L'an passé, devant ses visiteurs, elle s'étonnait d'avoir atteint 91 ans. « Je n'aurais jamais pensé vivre aussi longtemps, » disait-elle. « J'étais sûre que j'allais finir en tombant d'un cheval. Il n'est pas facile de supporter un pareil âge canonique. » Si vous aviez pu l'approcher à cette époque, vous l'auriez trouvée couverte de bijoux anciens, la chevelure argentée, une canne à portée de la main. Car Gertrude Dubi-Blom, Gertrude parce qu'on faut prononcer en allemand, ne guittait pratiquement plus les salons de sa villa qui s'appelait Na Bolom, ce qui veut dire la maison du jaguar en langue maya. Cette ancienne demeure de style colonial, à la fois villa mais aussi musée, centre de recherche et hôtel, sert de point de ralliement à tous les anthropologues férus d'histoire précolombienne et autres écologistes en mal d'aventure sud-américaine. Ceux-ci débarquent à San Cristobal de las Casas, qui se trouve à 2000 mètres d'altitude, à quelques 700 km au sud-est de Mexico, et qui est une ancienne ville coloniale aux confins du Mexique, dans l'état de Chiapas, dressée face à la jungle, à proximité de la frontière guatémaltèque. C'est une cité un peu perdue dans laquelle cette bernoise, que l'on pourrait qualifier avant, on disait tout à l'heure, rebelle, on pourrait dire aussi éternelle, mais aussi insatisfaite, bagarreuse, eh bien, dans cette cité un peu perdue, elle s'était enfin sentie chez elle, au point qu'elle y passera 50 années de son existence à défendre les droits des Lacandons, qui sont les descendants locaux des Indiens Mayas, une tribu qui a longtemps vécu de chasse et de cueillette au cœur de la jungle, avant de succomber à la déforestation et au tourisme. Je viens des Alpes suisses et j'ai vu cette végétation incroyable, ça a été le coup de foudre immédiat, disait-elle. Les Alpes suisses, disait Gertrude alias Trudy, c'est le petit nom qu'on donne en Suisse allemande, a tout fait en fait pour ne plus les voir. Née en 1901, fille d'un pasteur de Vimis, elle se brouille rapidement avec sa famille. Ses opinions politiques et son tempérament aventureux font tache dans le bourgeois chalet du Simmental. À 16 ans, elle part à Zurich, se rêve éducatrice sociale et livre des articles au Tagwart et au Volksrecht, les journaux militant socialiste de l'époque. Et puis, Trudy voyage. Elle va en Angleterre, en Italie, à Florence, où les carabiniers l'arrêtent pour une affaire de propagande subversive. Histoire de couper définitivement les ponts avec ses conservateurs de parents, elle épouse Kurt Dubi, qui est un gauchiste, je ne pense pas qu'on disait comme ça à l'époque, mais aujourd'hui on l'appellerait comme ça, gauchiste, fils de syndicaliste cheminot. Un mariage qui ne résistera pas longtemps aux divergences politiques du couple. Monsieur se lance dans une carrière de député, alors que madame s'engage pour la cause des femmes dans le Parti socialiste. Gertrude part en Allemagne combattre la montée du nazisme et soutenir les gauchistes locaux. Un mariage arrangé lui procure la nationalité allemande. Mais les nazis triomphent et Gertrude, inscrite sur la liste noire, doit s'enfuir en Angleterre sous une fausse identité. Elle s'offre un détour aux États-Unis et débarque en France rejoindre les rangs des antifascistes allemands exilés. On est alors en 1939 et Gertrude Dubi est arrêtée et incarcérée dans un camp de prisonniers politiques dans le midi de la France. Par chance, son passeport helvétique va la sauver d'une probable extradition dans un camp de la mort allemand. C'est grâce à l'intervention de Berne que Gertrude s'embarque pour le Mexique et rejoint d'autres gauchistes, ces gauchistes européens exilés par le conflit de la Deuxième Guerre mondiale. Et en 1943, pour le compte du gouvernement mexicain, alors présidé par Lázaro Cárdenas, la bernoise débarque, à l'époque déjà, dans la province de Chiapas. À dos de mulet, un appareil de photo Agfa en bandoulière. Gertrude se prend de passion pour les Indiens Lacandons et leur jungle, encore très hostile à l'époque, en tout cas pour la bernoise qu'elle était. Lors de cette équipée, elle rencontre l'homme de sa vie, l'archéologue danois Frans Blom, également sous le charme de la civilisation maya. En 40 années, Gertrude est devenue Madame Dubi Blom et accumule quelques 50 000 photos, décrit la vie quotidienne des Indiens, montre les révolutionnaires zapatistes qui aujourd'hui inspirent les révoltés du Chiapas, la jungle, et publie une quinzaine d'ouvrages qui lui valent une réputation internationale. Gertrude, qui se dit journaliste plus que photographe, se bat en fait pour le sort des Lacandons menacés par la civilisation occidentale, et avec son mari, qui décédera en 1962, Elle transforme sa maison de Nabolom en quartier général de lutte anthropologique et écologiste. Ceci, évidemment, dans les termes avant la lettre. Lançant au fil des années des campagnes de boycott, par exemple contre les Japonais de Mitsubishi, qu'elle accuse de raser la forêt tropicale, en écrivant au gouvernement, par exemple en 1991, elle reçoit pour ses actions une distinction décernée par le programme de l'environnement de l'ONU, et entretenant le centre de documentation Maya, mis sur pied par son époux, enrichissant le musée de la villa où elle habite et accueillant, contre dons et menus travaux, des étudiants américains venus se frotter au mystère indien. Une trépidante et fleuve existence, puisque je vous disais tout à l'heure, elle est morte à 92 ans, qui débouche, en fait, hélas et bizarrement, sur une immense amertume. Usée, malade, Gertrude Doubi-Blom juge sévèrement ses actions, estimant que ses batailles ont été autant de cuisantes défaites, qu'elles soient menées contre la guerre, la déforestation ou la préservation des cultures indigènes. Il y a 2 ans, une journaliste de l'Hebdo, Renata Libal, avait rendu visite à la vieille dame bernoise et elle avait fait un peu l'expérience de cette amertume. Alors je vous raconte en résumé sa visite. Elle l'a trouvée recluse dans un univers florambant l'humanisme protestant du siècle passé, sur un mur, à la salle à manger, par une inscription « Prière de manger tout ce qu'il y a dans votre assiette ». Lorsque Renata Libal pose quelques questions à Gertrude Doubi-Blom, eh bien celle-ci lui livre des réponses plus que sèches, un petit peu comme des coups de bâton qu'elle lui adresse du genre « Pensez-vous que les Lacandons étudiés, comme ils le sont depuis 50 ans, ont encore quelques secrets à livrer ?» Réponse, silence, monosyllabe, non. À la question « Que peut-on faire actuellement pour tenter d'aider les Lacandons à préserver leur propre culture ?» Re-silence, re-monosyllabe. Rien. Alors cette rencontre entre la journaliste helvétique et la journaliste helvético-mexicaine s'est achevée dans le silence que seule en fait a un peu rompu la mastication subtile d'un strudel aux pommes que notre hôte avait cuisiné dans sa maison. Alors la grande dame de la jungle, comment est-ce possible qu'elle ait gardé toute cette rigueur bien helvétique à la veille de sa mort? C'était en décembre dernier à Nabolom, à San Cristóbal de las Casas, dans le Chiapas. Elle avait 92 ans. J'ai été condamnée à mort par des intégristes musulmans et c'est Taslima Nasrim, une écrivain du Bangladesh, qui l'affirme. Lors d'un prêche à la mosquée de Dhaka, capitale du Bangladesh, 10 000 intégristes musulmans ont demandé ma tête. Le Conseil des combattants de l'islam, qui a lancé cette fatwa, qui veut dire, je vous le rappelle, condamnation à mort dont a subi les conséquences Salman Rushdie par exemple, eh bien cette fatwa a été imitée par d'autres groupes fondamentalistes. Tous exhortent désormais le gouvernement du Bangladesh à interdire mes livres et à condamner à mort les blasphémateurs de mon acabit. Mon dernier roman, qui s'appelle « La honte » en français, racontait l'histoire d'une famille hindoue du Bangladesh persécutée après la destruction en Inde de la mosquée d'Ayodhya en décembre 1992. En Inde, des fondamentalistes hindous ont tué des musulmans innocents. Au Pakistan et au Bangladesh, des fondamentalistes musulmans ont persécuté des hindous et incendié leurs temples. Cet été, après que 50 000 exemplaires de mon roman ont été vendus, le gouvernement du Bangladesh l'a retiré de la vente sous la pression des intégristes, arguant qu'il incitait à la haine interconfessionnelle. On ne me le fera pas taire. Partout où je pose les yeux, je vois des femmes maltraitées et leur calvaire justifié au nom de la religion. N'ai-je pas la responsabilité morale de protester ? Certains hommes souhaiteraient maintenir les femmes enchaînées, voilées, illettrées, cantonnées dans leur cuisine. Sur les 60 millions de femmes que compte mon pays, pas plus de 15% savent lire et écrire. Comment le Bangladesh pourrait-il devenir un jour un pays moderne s'il est tiré en arrière par des attitudes réactionnaires à l'égard de la moitié de sa population ? Nos femmes ne seront jamais libres tant que la religion influencera la politique. Le Bangladesh doit devenir un État laïque. Il est urgent de remplacer le code de la famille, basé sur des principes islamiques, par des lois garantissant aux femmes les mêmes droits que les hommes. Notre pays s'est pourtant doté de lois contre les tribunaux islamiques et leurs fatwas. Personne n'en tient compte. Cette année, par exemple, dans le village de Chatakchara, une jeune femme a été lapidée sur ordre d'un tribunal local parce qu'elle s'était remariée après un divorce. Dans le village de Kalikapur, des mollahs ont accusé une autre jeune femme de fornication et l'ont condamnée à recevoir 101 coups de bâton en public. Elle est morte peu après son châtiment, soi-disant d'un suicide. Il y a tellement de cas semblables à ceux-là. Dans les régions isolées, tant de filles issues de familles modestes sont illégalement condamnées par des interprétations extrémistes de la loi islamique. Pour m'être élevée contre de tels crimes, j'ai, moi aussi, été condamnée à mort. Pourquoi notre gouvernement ne poursuit-il pas en justice ces fanatiques qui lancent ces fatwas ? Nombreux sont ceux qui pensent que c'est parce que les intégristes ont contribué à son accession au pouvoir. Les autorités bangladaises me privent de passeport depuis le mois de janvier 1992. Quand j'ai demandé qu'on me le restitue, on m'a répondu que c'était impossible parce que j'écrivais contre la religion. En septembre, lorsque les journaux ont divulgué que les fondamentalismes avaient mis ma tête à prix, il a fallu que j'intente une action en justice pour pouvoir bénéficier de la protection de la police. Il semble que la récompense d'environ 2000 francs suisses ait été annulée. La fatwa, elle, par contre, reste en vigueur. Notre première ministre, Madame Khaleda Zia, aurait-elle peur de s'opposer aux fondamentalistes ? Ne voit-elle pas qu'en se montrant conciliante à leur égard, elle leur permet de gagner du terrain et que leur viendra où ils se retourneront aussi contre elle ? Le Bangladesh est ma patrie. Nous avons arraché notre indépendance du Pakistan au prix de 30 millions de vies. Nous laisser dominer par l'extrémisme religieux serait trahir ce sacrifice. Le Bangladesh doit au contraire œuvrer en faveur de l'égalité des sexes et des confessions religieuses. Si on ne leur barre pas la route, les mollahs qui aujourd'hui veulent m'assassiner tueront demain tout ce qui est progressiste au Bangladesh. Il est de mon devoir d'essayer de préserver mon pays de leur influence. J'appelle tous ceux qui partagent mes valeurs à m'aider à défendre mes droits. Ils aideront ainsi à sauver le Bangladesh. Je vous rappelle que le texte que je viens de vous lire a été écrit par Taslima Nasrin, une écrivaine du Bangladesh. Et dans le sens de ce que dit Taslima Nasrin aujourd'hui, c'est-à-dire comment les femmes, mais tout le monde, doit se mettre en marche pour essayer de contrer les courants islamistes, intégristes, précisons-le bien. Eh bien, nous nous sommes fixés comme objectif dans Onde Femme d'essayer d'organiser une rencontre avec plusieurs femmes concernées par cette question, autour par exemple de la question du voile, autour de l'exclusion des petites filles des écoles à cause de ce problème-là. Et de voir comment cela peut concerner aussi bien les écoles de la Suisse, de la France, et puis nous en tant que femmes, et ce que nous en tant que femmes pouvons faire dans cette situation, pour ce qui est de la Suisse, pour ce qui est de la France, de situations certainement bien différentes, et pour lesquelles nous demanderons la contribution d'un nombre de femmes, par exemple, du réseau des femmes musulmanes en France. Oh, La voix incroyable que vous entendez en ce moment est celle de Chrétié Biyma. Je ne sais pas si je prononce tout à fait justement son nom. Chrétié Biyma est né en Friesland, qui est cette province tout au nord de la Hollande. Et en décembre 1990, elle a gagné le Boy Edgar Prize, qui est le plus grand honneur décerné aux artistes de jazz aux Pays-Bas et qui jusque-là n'avait jamais été gagné par une femme. Elle dit elle-même qu'elle chante la voix. C'est un peu bizarre comme expression, mais en fait, elle use, dit-elle, d'un langage qui n'est pas un langage où vous pouvez suivre les paroles. Vous avez l'impression d'entendre certains mots, mais pour moi, ce n'est pas la signification des mots qui compte, mais l'émotion des mots. Alors, je vous laisse écouter encore quelques instants de ce disque qui est beaucoup inspiré de l'Afrique. La chanson que j'aimerais vous faire écouter ensuite s'appelle Hadden et c'est une contribution, une portée pour les femmes, les mères de la place de Mai en Argentine et tous les gens qui souffrent de dictateurs. Chrétié Biyma.
Se la vuole andare, se la dettatura, se la mangiale che la manda. Se la trondare, se la dettatura mangia tale, da Argentina, da Romagna. Se la gloria, se la chica se la mangia anche e la lana mora. Se l'hai paura, l'ombrisciauri, se l'han traid. Questi le loro mandali. Una romanza clandestina della Rosa Mazzari che la crompa da dentro della bacare. E la lona durante la calara se la impampanti. E la mangiare calara andante resta la mangiare se la comanda. Se la non solo quello per intentare, se la ladrona trova gangi, se la loro pare. Buone mandate, tre lavare, con voce intorni, ti la crenta sa gente, travagante, se bambina, so bagnante. De madres, sola mamuela. Se la madres, c'ho l'orore, la lame e le sangue. Te la giunto la frente, se la gente. Chi la giorno? Se la giorno lo pare, c'ha l'eritare. Con la gente, muole cande, se la giorno capare. Solo lo hago.